Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance d'essai. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Joie, tristesse, dégoût, peur, éclat de rire, crise de larmes, nausées, palpitations. Au cours d'une journée, nous sommes confrontés à une multitude d'émotions, aux nôtres, à celles de notre entourage. Nous réagissons aux rencontres, aux paroles, à ce que nous voyons, à ce que nous mangeons. Et si pour certains, ces émotions se gèrent facilement, sans difficulté ni excès, d'autres individus, à l'inverse, ont l'impression d'être totalement submergés par une vague qui les prive de mesure, de sérénité, de discernement, des sautes d'humeur qui perturbent certaines activités, abîment certaines relations. Un trop-plein qui peut d'ailleurs se traduire de façon visible, car si certaines émotions restent enfouies, secrètes, d'autres se lisent sur notre visage, se traduisent par notre posture, voire même en termes de santé. On entend même parler d'intelligence émotionnelle pour faire face, par exemple, à des situations critiques. Rester zen, garder son sang-froid, ces expressions sont passées dans le langage courant. Alors comment gérer ces émotions? Comment reprendre le contrôle pour retrouver l'équilibre, une forme d'harmonie? Nous attendons toutes vos questions sur la page Facebook de l'émission 33 84 22 75 75. Et pour en parler avec nous, Dana Castro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne à Paris, auteur de « Petits silences et petits mensonges », « Le jardin secret de l'enfant » aux éditions Brochet. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Cameroun le docteur Félicien Tonnet, médecin psychiatre, pédopsychiatre, psychiatre des hôpitaux, enseignant de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé. Puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique « Sport et santé » du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Quand ils viennent vous voir en consultation, Dana Castro, vos patients expriment des attentes. Et en termes d'émotions, justement, quelles sont ces émotions dont ces patients tentent de se débarrasser ou simplement d'atténuer l'intensité? Est-ce qu'il y a des grands traits, des grandes émotions aujourd'hui qui sont un petit peu hors la loi?
Quand ils viennent en consultation, les patients ressentent le débordement. Ils ne savent pas encore ce qu'ils ressentent, ils ressentent un malaise et ils se sentent envahis. Ils s'expriment en termes de « je vis des montagnes russes », c'est-à-dire que je monte très haut, je me sens très bien, beaucoup de joie, comme on disait tout à l'heure, mais je descends aussi très bas et à ce moment-là, je ressens un malaise confus, diffus, je ne sais pas si c'est de la peur, de la tristesse, de la colère, etc.
Justement, ils ont du mal même à mettre des mots sur leurs émotions.
Oui.
À identifier?
Oui, ils ont beaucoup de mal à identifier leurs émotions parce que le débordement est comme un magma. C'est-à-dire, ça nous envahit et cet envahissement est plein de différentes particules qui peuvent être la honte, la culpabilité, l'anxiété, la peur. Et on ne sait pas lequel prime.
Et d'abord, démêler donc cette confusion.
Donc la première chose à faire, c'est vraiment de démêler cette confusion, de voir un peu, bon c'est un peu théorique ce que je vous dis,
ouais, mais ça compte.
De voir un peu finalement s'il y a une émotion particulière qui prédomine, de comprendre si ces émotions sont, et c'est très important, justifiées ou pas.
Alors comment on fait? On raconte des anecdotes, on raconte une partie de la journée, on va pouvoir expliquer ce qui s'est passé précisément?
Oui, moi j'aime bien que les personnes qui viennent me voir m'expliquent exactement ce qui s'est passé et puis la séquence dans laquelle est apparue l'émotion. Je leur dis presque, vous me racontez seconde par seconde.
Vous êtes psy ou vous êtes enquêtrice?
Les deux. Je pense que la psy, c'est comme une forme de détective privé. Vous savez, on cherche des indices. Donc, il raconte vraiment et souvent, il associe cela à des pensées. C'est-à-dire que la pensée peut aussi déclencher l'émotion.
Alors, pourquoi justement vouloir s'en débarrasser de certaines de ces émotions, Dana Castro, parce qu'on se sent plus vulnérable?
On se sent très vulnérable, on se sent vulnérable par rapport... En fait, ces émotions toxiques vont créer une autre couche d'émotions toxiques, parce qu'on se sent non seulement vulnérable par rapport aux autres, mais on s'en veut, comme vous disiez tout à l'heure, on voit quand on n'est pas bien, on a peur qu'on lise sur notre visage toutes ces émotions, mais on se sent très en colère vis-à-vis de soi-même.
Et comment se fait-il que même si on prend des bonnes résolutions, en disant par exemple... au cours de la journée, je vais quand même moins parler, moins m'énerver, moins, par exemple, moins être agressif ou agressive. Et finalement, on n'arrive à rien restreindre.
Parce qu'on n'est pas préparé. Et les bonnes résolutions, si elles restent juste sur le papier, sans une préparation un peu en amont, parce que quand on dit « je ne vais pas m'énerver » ou « je ne veux pas parler » ou « je ne veux pas être agressif », ok, mais comment on va faire ça? Donc la préparation porte sur le process qu'on va mettre en place.
Est-ce que certains patients en ont tellement assez de leurs émotions, voire même sont inquiets de ce trop-plein d'émotions, qu'ils craignent que derrière ces humeurs incontrôlées, en fait, il y ait un trouble psychique?
Bien sûr. Lorsque, par exemple, la situation la plus flagrante, c'est lorsque l'anxiété est tellement importante, la peur, l'anxiété est tellement importante, les gens vous disent « mais j'ai peur de devenir fou ». C'est-à-dire que l'intensité est énorme, la douleur, enfin le désagrément est tel que les gens ont complètement perdu le contrôle, et le fait de perdre le contrôle leur fait dire qu'ils deviennent peut-être fous. Mais c'est pas de la folie, c'est juste de la souffrance.
Et la toxicité des émotions, elle est en rapport avec la place excessive que prennent ces émotions, ou vraiment certaines émotions en tant que telles, par définition, sont toxiques?
C'est une question à la fois de dose et nature des émotions. Si effectivement elles sont envahissantes, si ces émotions sont présentes, vraiment c'est le mot envahissant. C'est-à-dire que si systématiquement on les éprouve, quelle que soit la situation et quelle que soit la réalité, elles vont empiéter dans la vie de quotidienne et donc elles vont être toxiques.
Est-ce que vous avez quand même établi une liste noire des émotions, des émotions, quelle que soit la situation, qu'il faut proscrire, qu'il faut éviter parce qu'elles sont dangereuses?
Une liste noire des émotions, enfin les émotions les plus, on va dire, nocives, en grande quantité, sont à mon sens dans la catégorie la honte, parce que c'est une émotion qui a à faire avec soi, et donc une image très négative de soi, et c'est insupportable de se dire en permanence qu'on est un nul, un bon à rien, etc.
On n'en tire jamais rien de bon.
On n'en tire jamais rien de bon. Et ça occulte les autres aspects de sa personnalité, parce que même si on a fait des erreurs qui n'en fait pas, il y a quand même des choses positives dans notre fonctionnement et notre personnalité. Je pense que la peur se décline à plein la peur se décline de différentes façons. Par exemple, la peur d'abandon, les gens qui ont peur de se voir abandonner, vivent des situations épouvantables et ils peuvent être dans des situations de dépendance, de soumission terrifiantes.
Et peut-être que contrairement à la honte, la peur, des fois, peut être protectrice, alors que la honte n'apporte rien de bon.
Non, la honte n'apporte rien de bon. La peur, effectivement, en tant qu'émotion primaire, est protectrice, mais quand elle se relie comme ça à des idées que les gens se font, elle devient toxique.
Alors, on va voir justement tout à l'heure avec les auditrices et les auditeurs de quelles émotions ils essaient de se débarrasser. On essaie de se débarrasser de quoi, au juste, d'Anna Castro? Des émotions ou des effets des émotions? Par exemple, de la déprime quand on est triste, parce qu'être triste, finalement, c'est assez normal. Du stress quand on a peur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effet ou la source?
C'est plutôt l'effet, parce que la source, on ne peut pas la contrôler. La source, on peut la contrôler quand elle vient de nous. Quand on se fait à soi-même des films, on peut, catastrophes en général, on peut arriver à contrôler ces films catastrophes et leur donner un happy end. Mais la source n'est pas toujours intérieure, elle est souvent dans l'environnement. Et en fait, on essaye de se préparer à faire face à des surprises et on essaye de tempérer les effets. Par exemple, quelqu'un qui se sent agressé, qui se sent jugé et qui va agresser en retour, il va essayer à la fois de modifier la perception qu'il a de cette agression et donc le comportement qui va avec. Donc on essaie de se débarrasser des comportements nocifs qui découlent des émotions toxiques.
Et pour éviter que ces émotions n'arrivent, essayer d'en repérer aussi le signe précurseur, le signe déclencheur.
Oui, je pense que ceux qui, on est toujours surpris dans la vie. Donc le fait qu'on ressente parfois des émotions négatives, c'est pas catastrophique. Le tout, c'est de pouvoir vraiment les gérer. Donc, mais ça, on ne peut pas intervenir
là-dessus. On peut pas tout prévoir.
Non, on peut pas tout prévoir. Mais le tout, c'est de vraiment. Je crois que ce qui est le plus utile, c'est de se connaître soi-même, de connaître ses réactions et surtout ses leviers d'auto-apaisement. Comment on peut s'apaiser? Est-ce que je dois respirer profondément, faire de la gym, manger un bon chocolat parce que ça guérit de tout? Voyez,
précisément, on peut réguler soi-même des choses. Et puis pour d'autres choses, il y a des thérapies qui sont dispensées
Absolument.
Par des personnes formées. On n'est pas toujours capable d'en venir à bout tout seul.
Non, lorsqu'on est envahi, je crois que lorsqu'on est débordé, envahi, je crois vraiment qu'on n'est pas capable de venir à bout tout seul. Et dans ce cas, réguler ses émotions, c'est déjà aller voir un spécialiste.
Alors Dana Castro, hein, comme promis, on donne tout de suite la parole à nos auditrices et à nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Et pour commencer, nous partons pour la Guinée, pour Conakry, où nous sommes en ligne avec Ibrahima. Ibrahima, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Dana Castro est à votre écoute, allez-y.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Alors, mon problème est que je suis émotif.
Mm-hmm.
Alors, j'ai perdu mon frère.
Mm-hmm.
Depuis lors, j'ai du mal à gérer mes émotions. Je me laisse vite atteindre par les problèmes des autres. Donc, je voudrais savoir comment sortir de cette situation.
Quand vous dites que vous êtes émotif, cela signifie quoi? Que vous pleurez facilement? Que vous êtes triste souvent?
Oui, facilement. Je verse des larmes, alors, sans le vouloir.
Dans des situations très différentes?
Oui, oui, oui. Par exemple, lorsque je vois quelqu'un en difficulté, ou bien face à un cas de décès.
Ibrahima, tout de suite, quand vous avez justement posé les choses, vous avez parlé de la disparition de votre frère. C'était il y a combien de temps?
Cela remonte à 8 ans maintenant.
À 8 ans maintenant, il était jeune, ce frère?
Oui, il était jeune.
Et il est mort dans des circonstances inattendues, subites?
Ouais, très vite, soudain.
Vous avez l'impression que toutes ces années après, le deuil n'est toujours pas fait?
Non, pas encore.
Pas encore fait. Dana Castro, Ibrahima qui le dit, hein, il est triste, il souffre, chaque chose stimule en fait son chagrin. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ce que je peux lui dire, c'est qu'effectivement, il a subi un choc et les traces de ce choc sont encore présentes. La tristesse qu'il peut éprouver, c'est comme si il se sent obligé d'éponger un peu le malheur des autres, peut-être pour en souvenir de ce frère décédé, peut-être parce que il a envie de rassurer les gens, mais en tout cas, ce comportement ne peut que raviver le deuil et la tristesse qui a été éprouvée par le décès de son frère. Je pense que la première chose à faire, bien sûr, il est important d'être empathique par rapport aux gens qui témoignent de la souffrance, mais essayer de se protéger. Le mot que j'ai envie de vous dire, c'est de vous protéger parce que vous avez votre propre souffrance dont il faut s'en occuper. Et en absorbant celle des autres, eh bien, vous la faites augmenter. Donc, se protéger, c'est de se dire, si je peux leur faire du bien sans que moi, ça m'impacte, je le fais. Mais sinon, je gère mes propres émotions.
Ibrahima, vous aviez pu accompagner votre frère quand il est disparu, aller à ses funérailles, être là pour ses derniers instants?
Non, malheureusement, on n'était pas ensemble, puisque moi, je suis au niveau de Conakry et lui, au niveau du village. Donc.
Et vous vous en voulez de cette absence, justement, avant sa disparition?
Je n'ai pas compris.
Est-ce que vous vous en voulez de ne pas avoir été là, justement, au moment de l'hommage qui a été rendu à votre petit frère?
Oui, oui, en quelque sorte, parce que avant, disons, on n'était pas les meilleurs amis au monde. Donc, quand j'ai appris son décès soudain, ça m'a vraiment touché. Et je me dis qu'on a raté beaucoup de choses qu'on aurait pu faire ensemble. Donc, cela revient constamment. Dès que je pense à lui, à la maman, tout revient.
Et vous pouvez en parler justement avec vos parents, avec les autres frères et sœurs, si vous en avez ?
Malheureusement, c'est un peu compliqué parce que la maman, jusqu'à présent, elle, dès que tu commences, c'est des larmes qui viennent. Donc, en fait, ça fait pleurer tout le monde.
Dana Castro, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ibrahima, justement ? Qu'est-ce qu'il peut entreprendre ? Parce que, à la base, on l'entend, il y a vraiment ce chagrin qui est immense.
Ce chagrin est immense et puis il y a un énorme regret des choses qui n'ont pas été vécues peut-être ensemble avec ce petit frère. Certes, vous n'étiez pas les meilleurs amis du monde, mais vous avez un lien avec votre petit frère et peut-être vous regrettez aussi tout ce que vous n'avez pas vécu. Je comprends qu'il est très difficile, enfin qu'il est très émouvant de parler avec des parents qui sont encore très touchés, mais je crois vraiment la seule chose c'est d'en parler, de remettre un peu les choses dans l'ordre. Et de, alors là aussi, de trier ce qui est de l'ordre du regret, ce qui est de l'ordre un peu de la compensation, parce que si vous vous occupez du malheur des autres, est-ce que ce n'est pas une façon de compenser ce que vous n'avez pas pu faire pour votre petit frère, etc. Mais je pense qu'il est important vraiment d'en parler avec des gens qui vous écoutent, des spécialistes, parfois même avec de très bons amis en lesquels on a vraiment confiance, parce que le premier pas, c'est quand même se soulager et pouvoir en parler.
Voilà Ibrahima, on vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage hein, à Conakry. Nous allons partir pour le Mali, pour Bamako, où nous sommes en ligne avec Paul. Paul, bonjour.
Oui, bonjour.
Dana Castro est à votre écoute, allez-y.
Oui, ma question est la suivante.
Allez-y.
J'aimerais savoir comment on fait pour contrôler sa colère.
Parce que vous êtes vous-même colérique, Paul, racontez-nous un petit peu comment ça se passe.
Oui, je dirais, bon. Et aussi, comment faire pour ne pas tout le temps se mettre en colère.
Donc, c'est parce toujours que la même question sur la colère. Dites-nous justement pourquoi vous voulez vous débarrasser de cette colère. Comment elle s'exprime chez vous ?
Oui, je le dis parce que en général... quand je m'amuse, surtout, je discute avec des amis. Surtout quand je suis sur le terrain de football, mm-hmm. Je passe mon temps à m'énerver. Surtout quand on me fait certaines choses. Et puis, je réagis très mal lorsque je suis en colère. Donc, je voudrais savoir comment faire pour ne pas se mettre en colère et comment faire pour se débarrasser.
Ça se passe comment ? Vous êtes plutôt mauvais joueur ? Vous en venez presque aux mains ? Vous avez envie de vous battre ?
Des fois. Des fois même, j'essaie de faire des gestes... non, pas du tout sportif.
Et c'est comme ça depuis que vous êtes petit ?
Oui, d'habitude, je dirais ça comme ça.
Dana Castro, qu'est-ce que vous pouvez dire à Paul qui est submergé par sa colère ? Il en vient aux mains, mais il en a marre de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Déjà, je pense que c'est très important de prendre conscience et je pense que Paul a pris conscience de son problème et c'est déjà un grand pas en avant parce que, ne serait-ce qu'ayant pris conscience, il va essayer de faire des choses pour gérer cette colère. Alors, d'où vient la colère ? Encore une fois, ce que j'ai envie de poser comme question ou enfin de dire, c'est de bien se demander d'où vient cette colère et si j'ai bien compris dans l'exemple qui a été donné, elle peut venir d'une forme de frustration. Tout d'un coup, peut-être, Paul, vous avez l'impression que on vous respecte pas assez ou qu'on vous donne pas ce dont vous avez besoin ou ce que vous méritez. Et en général, la réaction à cette frustration peut être la colère.
Est-ce que finalement, cette colère voulait vous en débarrasser parce qu'on vous a fait des remarques ou est-ce que vous en avez pris conscience par vous-même ?
Oui, bon, je dirais... Certains m'en ont fait des remarques et moi-même, je veux m'en débarrasser parce que des fois, je suis bizarre, rigolo, je m'amuse beaucoup, mais dans certaines affaires, surtout sur le terrain de football et avec mes amis au grain, quand on discute et que ces discussions-là ne me valent pas, donc des fois, j'en vais, je deviens très, 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 disons, énervant.
Vous êtes agressif. Vous êtes agressif oui, quand on agressif. Vous dit certaines choses. Vous avez repéré, vous avez pointé ce qui a le don de vous exaspérer.
Voilà.
C'est quoi ce qui vous énerve ? C'est quoi ce qui vous énerve ?
Beaucoup de choses, très peu de choses des fois même. Parce que des fois, je dis que des fois, je peux passer du temps sans m'énerver. Mais il y a des moments, je sais même pas, même des petites choses que j'accepte autrefois, mais quand on me le fait, je m'énerve.
Je ne sais pas pourquoi.
Vous ne savez pas pourquoi vous énervez? Ça vient sans qu'il y ait d'explication particulière? Ça monte en vous?
De toute façon, oui. Je peux passer pas mal de temps comme ça. Je peux même faire un mois seulement. Quoi qu'il arrive, je m'énerve. Je joue au foot, je m'énerve, je suis au grain, je m'énerve avec la famille, avec mes proches, quoi. Je m'énerve contre tout le monde.
Et est-ce que justement, dans votre équipe de foot, on vous a menacé de vous exclure si vous continuiez à avoir ce comportement qui n'est pas du
oui,
tout sportif?
Oui, ceux qui me connaissent, quand ça commence seulement, et on me sort du terrain.
Et malgré la sanction, vous continuez?
Oui, des fois, je continue. C'est 2 jours, je peux arrêter, mais après, quelques mois, 2 jours, 10 jours, donc je continue comme ça.
Okay.
Je vais faire encore.
Dana Castro.
Oui, alors je pense que le fait que, donc premier pas, vous avez pris conscience de votre colère et c'est vraiment une très bonne chose. La deuxième chose que je vous conseillerais, c'est avant d'aller dans un endroit, avant d'entreprendre quoi que ce soit en groupe ou avec vos amis ou avec la famille, vraiment de vous préparer mentalement. Vous êtes sportif, vous savez ce que ça veut dire vous préparer mentalement et vous dire que quoi qu'il arrive, vous allez pas être surpris. Quoi qu'il arrive, vous allez laisser aller les choses et vous n'allez pas réagir. Vous allez prendre de très fortes respirations. Vous savez, comme quand vous préparez à rentrer sur le terrain. Et vous allez vous dire, je me centre sur moi parce que je gère ma colère et je laisse glisser tout le reste. Fixer un objectif qui est un objectif d'apaisement. Donc vraiment, quand vous sentez que ça monte, respirez profondément, n'hésitez pas, même à vous isoler un peu pour respirer, vous décentrer et vous répétez à vous-même, mon objectif c'est de me calmer et je vais gérer toutes les autres choses quand je suis calme.
Paul, est-ce que vous êtes prêt à faire des exercices de la sorte hein, pour essayer justement d'éviter ces débordements?
Oui, quand on me demandait quand ça m'arrive souvent, je me réclenche, quoi. Je viens seul, j'écoute de la musique, je me relaxe un peu.
Mais de faire avant, pas quand ça vous arrive, anticiper, essayer de le faire avant.
Non, bon, pas avant.
Est-ce que vous êtes prêt à le faire avant?
Oui, je peux essayer.
Eh ben, on peut essayer de voir si les conseils de Dana Castro marcheront. Et n'hésitez pas, hein, si vous voyez que ça marche, mettez-nous un petit mot pour nous dire comment ça s'est passé.
Et exercez-vous tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous allez voir, vous allez beaucoup gagner en sérénité. Vous allez être très fiers de vous.
Voilà, Paul. Très bonne journée à Bamako, au Mali. On retourne à Conakry. Cette fois, c'est Thierno qui est avec nous. Thierno, bonjour.
Oui, bonjour.
On est à votre écoute. Allez-y.
D'accord, moi j'ai un petit problème, je sais pas, ma question est-ce que c'est héréditaire? Mais je vais vous expliquer d'abord.
Vous avez raison, allez-y.
Mon papa, il était nerveux, colérique, mm-hmm. pour une petite chose, il s'énervait, mm-hmm. ce qui fait qu'on n'osait même plus s'approcher de lui, on a créé de la distance. Au fur du temps, en grandissant, je me rends compte que j'ai les mêmes caractères. Pour rien du tout, je m'énerve. Je vous donne un exemple. Ce matin, en venant au boulot, il y a une dame qui a coincé ma voiture. Au lieu de réfléchir, je me suis mis à crier, à insulter. Tu ne vois pas devant toi. Pour rien du tout, je bloque carrément. Et quand je bloque, ça ne dure pas. C'est juste 5 minutes, 10 minutes. Je me rappelle ce qui s'est passé. Je me dis, je n'aurais pas dû. Mais je n'arrive pas à gérer le moment quand je me bloque. Je sais que c'est un problème. Et aujourd'hui, j'ai un enfant qui a 4 ans. Il se bloque de la même façon. Tu lui dis d'aller se laver avec un ton, il te dit carrément, il ne part pas. Il s'énerve. Il bloque carrément. Je ne sais pas si ce problème-là est dû à un problème de gêne de mon papa à moi. Est-ce que je l'ai hérité? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est lié à l'éducation que j'ai reçue de mon papa, que je suis en train de transmettre à mon fils?
Vous avez d'autres enfants, Thierno?
Oui, j'ai une fille, mais elle s'énerve pas, en fait.
Mais elle dit, à 4 ans aussi, il lui arrivait de dire non à votre fille, non?
Vous dites?
Il lui arrivait à votre petite fille, quand elle avait cet âge de 4 ans, de dire parfois non, quand vous lui disiez « va au lit, viens tout de suite,
oui,
arrête de jouer ».
C'est différent, elle ne bloque pas, en fait.
Elle
même
ne bloque
si
pas.
Elle le veut. Voilà. Même si elle ne veut pas le faire, elle ne s'énerve pas, elle m'explique doucement.
Je vais donner tout de suite la parole à Dana Castro. Moi, j'ai une autre petite question. Vous disiez votre papa s'énervait. Il était violent, votre papa?
Oui, parfois violent, il nous battait. Quand il s'énerve, il arrivait même à ce qu'il mette main sur nous. Et j'ai un grand frère aussi. Mon grand frère, lui, il ne s'énerve pas, par contre.
Et moi, j'ai une autre question. Il vous battait. C'est une question délicate que je vais vous poser, mais j'ose quand même. Est-ce qu'il vous arrive, vous aussi, de taper votre petit garçon qui a 4 ans ?
Non, pas du tout.
Voilà,
du tout.
Donc vous voyez déjà l'hérédité, elle a sauté. C'est très bien, il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'hérédité, c'est une très bonne chose. Je donne la parole à Dana Castro.
Oui, bonjour. Donc effectivement, vous avez la réponse, l'hérédité n'est pas vraiment pour beaucoup dans cette affaire que vous racontez. Mais finalement, ce que vous nous avez très très bien raconté, c'est comment une éducation peut se transmettre de père en fils. C'est vraiment la filiation de père en fils. Et vous savez, un enfant, quand il est petit, qu'est-ce qu'il a comme modèle? Comment il peut comprendre la façon dont on doit communiquer? En regardant ses parents et les gens qui sont importants dans sa vie. Donc si en tant qu'enfant, vous avez observé, enfin, le mode de communication avec votre père a été sur un mode violent et agressif, peut-être que vous vous êtes dit, enfin inconsciemment, parce qu'on prémédite pas des choses comme ça, que c'est la bonne façon de faire, et ça se transmet après, sans qu'on le veuille, à l'entourage et aux générations futures.
Mais c'est pas génétique, hein. Vous soulignez bien.
J'ai bien souligné que c'est pas héréditaire.
Voilà.
C'est vraiment un mix inconscient qu'on fait. On a l'impression que finalement il y a que cette forme de communication. Si on aime les gens et si on veut avoir vraiment un lien fort avec eux, eh bien la bonne façon c'est de s'énerver contre eux. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on a aperçu les liens dans notre famille. Je pense que c'est très important que vous vous rendiez compte de tout cela. Et moi aussi j'ai une question, pourquoi vient l'énervement? Est-ce que vous avez l'impression que si on vous résiste ou que si on répond pas à ce que vous voulez tout de suite, c'est une façon de vous juger ou de ne pas prendre en considération votre autorité ou le bien fondé de ce que vous demandez?
C'est ça. Dès qu'on me contredit, ou dès que je me retrouve dans une situation inconfortable, je bloque. Mais je ne décide pas de bloquer, en fait. C'est ça mon problème. J'ai envie vraiment de combattre ce comportement.
Sûr.
Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour, en cas de situation pareille, comme ce matin-là, quand la dame là a voulu cogner ma voiture, qu'est-ce qu'il faut pour garder son sang-froid, ne pas bloquer carrément, réagir? Qu'est-ce qu'il faut? C'est ma question. Puisque je sais déjà que ce n'est pas héréditaire, je n'ai pas envie que ce comportement continue sur mon enfant, en fait.
Et vous avez tout à fait raison, et c'est vraiment une très très sage décision que vous prenez comme ça devant nous. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment de vous calmer. Je peux pas vous dire autrement.
La respiration peut-être.
Oui, par la respiration peut-être, mais à ce moment-là, il faut vraiment fermer les yeux et se dire tu te calmes, tu respires, tu te calmes, tu respires, tu te calmes, tu respires. Et vous le dites de la façon que vous voulez et autant de fois que de besoin, parce que votre cerveau va se déplacer de l'énervement vers un état plus calme. Et uniquement après, vous sortez de la voiture et vous discutez avec la dame. Ou vous sortez de la voiture, vous vous mettez devant la dame, vous la regardez fixement, mais en vous-même, vous essayez de vous calmer, de respirer et de vous apaiser.
Voilà, Tierno, pour ces conseils, on vous souhaite bon courage. À Conakry, en Guinée, on prend un dernier appel. Cet appel, c'est celui de Christian, qui est en République démocratique du Congo, à Kolwezi. Bonjour, Christian.
Bonjour, madame. Bonjour, la RFI.
On est à votre écoute. Dana Castro vous écoute. Allez-y.
Bonjour.
Bonjour, merci. Oui, c'est depuis un certain temps, quand je me retrouve devant un chef au travail, que ce soit même à l'école, si je suis devant mon chef en train de parler, à un certain temps, je me rendais compte que ma voix était en train de vibrer. Et quand ma voix vibre, donc je me sentais directement stigmatisé devant mon chef. Donc c'est comme qui dirait, lui, il est supérieur par rapport à moi. Donc il y a de cela 3 ans. Mais il y a de cela maintenant, depuis quelques mois là, quand je me retrouve devant mon chef, je vais me concentrer. Quand lui, il parle, moi d'abord, je vais commencer d'abord par respirer. Du fond de mon cœur, je respire. Alors après un temps, quand il me donne maintenant la parole pour m'exprimer, et je suis arrivé maintenant à résoudre ces problèmes-là par la respiration.
Super.
Donc, vous avez identifié le problème, vous avez trouvé une solution. Et aujourd'hui, ça marche, Tierno ? Christian, excusez-moi.
Oui, oui, aujourd'hui, ça marche par la respiration. Donc, quand lui, il parle, moi, je vais faire des mouvements là, inter, et là, je respire. Et quand je respire, après, dès qu'il me donne la parole, je vais m'exprimer sans problème. Parce qu'auparavant, je me sentais stigmatisé devant mon chef. Quand le chef parle, moi, je me sentais inférieur par rapport à lui. Et quand il faut parler, j'ai vibré, donc dans la voix vibrée. Donc, c'est comme si je perdais mon chef.
On entend bien là, Dana Castro, ce que nous dit Christian, c'est que carrément, son physique, sa voix, son trémolo traduit l'émotion qu'il ressent.
Absolument, traduit l'émotion qu'il ressent et traduit cette anxiété, cette peur, peut-être du jugement, et à la fois le dépit de se sentir inférieur alors qu'il n'y a aucune raison de se sentir, en tant qu'être humain, inférieur à son chef. Ben, la respiration, c'est vraiment un moyen extraordinaire parce que les émotions ont aussi un côté physiologique. Donc, en travaillant le côté physiologique, voyez, comme vous l'avez fait, en respirant profondément, la respiration doit être vraiment profonde, eh bien, on arrive à s'apaiser soi-même et donc à apaiser le côté physiologique qui, dans toutes les émotions qui envahissent, est présent.
Un témoignage qui illustre parfaitement tous les conseils que vous venez de donner juste auparavant. On remercie beaucoup Christian de son appel de RDC. Avant de retrouver le docteur Ntoné au Cameroun, j'aimerais lire ce témoignage sur la page Facebook de Priorité Santé que l'on a reçue du Tchad. C'est Bourgeois qui nous dit, hein, il va citer une maxime de sa grand-mère. « Moi, je garde toujours ce conseil de ma grand-mère en mémoire. Elle me disait « Mon fils, ne prends pas de décision quand tu es en colère ou dans la joie, car tu ne prendras jamais de bonnes décisions dans cet état-là. » Qu'est-ce que vous en pensez, Dana Castro ?
Je pense que c'est extrêmement sage et que c'est très thérapeutique, parce qu'il faut savoir pourquoi il ne faut pas prendre des décisions quand on est dans un état émotionnel modifié. C'est parce que notre raisonnement n'est pas éclairé et qu'on va prendre des décisions soit pour calmer tout de suite l'émotion. Par exemple, si je me sens très en colère, je vais taper quelqu'un pour la décharger et donc je vais créer des problèmes encore plus graves en tapant quelqu'un. En tout cas, j'ai très très peur d'aller à l'encontre des gens, je vais imaginer que des catastrophes, ils vont me juger, ils vont dire que je suis nulle, ils vont voir que aujourd'hui j'ai pas une jolie robe et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et donc je vais m'isoler et je vais pas me socialiser. En tout cas, il faut garder à l'esprit que les émotions, c'est comme un filtre qui vont modifier la perception qu'on a vraiment de la réalité. Les émotions, quand elles nous envahissent, ne nous rendent pas réalistes.
Et c'est ce que disent les parents sans le savoir. Ils font de la psychothérapie sans le savoir quand ils disent « Enfant, tu vas te calmer et tu reviens après ».
C'est exactement ça. Et ils ont tout à fait raison de le faire parce qu'ils aident leurs enfants à réguler ainsi leurs émotions.
On part tout de suite pour le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Et on vous retrouve, docteur Félicien Tonnet, bonjour.
Bonjour, bonjour RFI, comment vous allez ?
Ça va très bien. Pédopsychiatre, donc docteur Tonnet, psychiatre des hôpitaux, chargé de cours à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé. Alors, est-ce que chez vous aussi, docteur, certains patients viennent vous consulter pour ceux trop pleins d'émotions ?
Mais oui, figurez-vous que ce que les autres auditeurs ont dit, lorsqu'ils se sentent mal débordés et lorsqu'ils sont mal dans leurs relations interpersonnelles et qu'ils prennent conscience de ça, alors ils viennent consulter et demandent au médecin comment faire pour maîtriser ses émotions, comment faire pour entretenir des interactions sociales sans excès. Ils ont une composante cognitive qui leur permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui va mal, mais comme on le voit, c'est difficile pour eux de définir d'où ça part, lorsque c'est surtout endogène, ça part du corps, et lorsque ça vient de l'extérieur, parfois, il est très important de noter que la personnalité de la personne qui vient, que lui-même ne maîtrise pas très bien, le facteur déclenchant qui peut être endogène ou extérieur, qui peut être récent ou ancien, qui peut être héréditaire ou acquis, et surtout le moment. Le moment, c'est cette période où on est soit très fort, soit on est très vulnérable. J'ai aussi constaté qu'il y avait une composante seule de tolérance des émotions, qui variait d'un individu à l'autre. Et il faut donc connaître la personnalité, connaître ses aspects, sa spécificité culturelle. Et on se rend compte que dans certaines traditions au Cameroun, il y a des personnes qui expriment la tristesse en dansant, d'autres qui expriment plutôt la joie en pleurant. Et à vrai dire, il faut comprendre le cas, l'individu, et voir ce qui est gênant pour lui, invalidant pour lui et qui le rend fragile pour définir en fait quel type d'émotion effectivement. Et comme on le disait dans l'émission, qui sont des facteurs complexes parce que c'est mélangé, c'est rarement une seule émotion, c'est des émotions qui se mélangent et chaque malade qui vient devant vous, chaque personne qui vient devant vous pose son problème et il faut vraiment dépouiller comme un spéléologue pour aller comprendre les facteurs qui entretiennent la souffrance chez le sujet.
Spéléologue, tout à l'heure on parlait de détective, décrypter ses émotions. On a entendu les auditeurs qui se plaignaient de ce trop-plein, par exemple, de tristesse, de colère ou de modestie. Vous, en consultation, docteur Félicienne Tonnet, de quoi se plaignent vos patients ?
Alors, mes patients vont venir parce que, surtout, ils ont des peurs inexpliquées. Ils vont dire, comme notre ami du Congo tout à l'heure, qu'ils ont des colères inexplicables. Parfois, c'est l'entourage, le partenaire, le conjoint ou la conjointe qui va venir parce qu'il y a des excès de violence injustifiés avec regret après coup. Et puis, l'autre qui va venir parce qu'il y a une instabilité sociale, il perd ses emplois sans comprendre pourquoi, il est toujours en difficulté. C'est quand il a pris conscience qu'il consulte. Mais tant qu'il n'a pas pris conscience, malheureusement, il a une souffrance psychologique et sociale qui est due à une conséquence psychobiologique, qui est due à des messages par des idées, comme disait Madame Castro tout à l'heure, qui est due à des souvenirs qui déclenchent en nous, en fonction de notre personnalité, en fonction du moment, qui déclenchent en nous un ressenti vécu qui peut être troublant, qui peut être supportable. Et lorsqu'il est insupportable, alors ils viennent. Et nous, nous devons démêler tout ça pour poser le diagnostic et proposer quelque chose.
Alors justement, ce fameux seuil de tolérance avec l'alerte, hein, qui peut aussi être donné par l'entourage, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec les compagnons de foot d'Ibrahima hein, au début, de Paul, tout à l'heure, qui disait que sur le terrain, ses camarades n'en pouvaient plus de ses excès.
Ça a fait aussi l'objet, malheureusement, en pédopsychiatrie, des échecs scolaires, des renvois scolaires, des déperditions scolaires, lorsque ces enfants, presque adolescents, mais un peu plus jeunes, ont parfois été présentés comme violents en milieu scolaire, agressifs en milieu scolaire, alors qu'il s'agissait d'une impulsivité réactionnelle à des émotions, à des peurs. Par anticipation, ils agressent pour se protéger de quelque chose qu'ils auraient analysé de manière erronée comme dangereuse. Autant de choses, et là, on sent que l'enfant qui se développe, la personnalité qui se développe, sort d'un environnement. Un enfant qui a vécu où la réponse face à l'adversité, c'était la violence, il va utiliser ses schémas. Et bientôt dans la vie, il va utiliser ses schémas, mais pourrait être lui gêné de pouvoir continuer à vivre en société. C'est pour cela que le problème avec les psychologues cliniciens et les médecins, c'est de voir le cas. J'ai vu tout à l'heure proposer la respiration, mais vraiment, il faut être proche de l'individu pour interroger sa communauté, sa culture. Comment dans cette culture on maîtrise les émotions ? Et on se rend compte que dans toutes les cultures du monde, il y a toujours eu des petites recettes de bonne mère.
Si vous vouliez donner, hein, on a vu ça avec les témoignages sur la page Facebook, beaucoup de colère. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui se sentent complètement en hyper-agressivité, qui n'en peuvent plus de leur propre colère ? Qu'est-ce que vous leur dites, vous ?
À vrai dire, en tant que psychiatre, je dépasse souvent le dire lorsque c'est imminent et lorsque c'est, ça pose un problème de dangerosité ou de fragilité sociale en vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'autrui, et tout en préparant un programme de psychoéducation, parce que je dois d'abord étudier le cas, je peux parfois utiliser des médicaments pour atténuer l'angoisse, pour atténuer, je peux utiliser des benzodiazépines, je peux utiliser des bêta-bloquants. Je peux le mettre en condition de pouvoir m'écouter et de pouvoir utiliser ses capacités cognitives qui sont aliénées par toutes ces émotions, qui perturbent son raisonnement et qui l'amènent à prendre des décisions parfois intempestives.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Félicien Tonnet, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, directeur général adjoint du CHU de Yaoundé.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Très attentive, hein, Dana Castro, oui, à ce qu'on vient d'entendre avec le docteur Ntonet. Dernière partie de notre échange, on parle toujours des émotions dans Priorité Santé. Et on entend bien, hein, c'est quelque chose que vous constatez, j'imagine, au quotidien dans votre exercice. Ces émotions, elles diffèrent considérablement en fonction des cultures, mais aussi la perception de ces émotions. Dans certains lieux du monde, dans certaines familles, réagir de telle ou telle manière, on va dire c'est normal, même s'il n'est pas question de normalité ici, alors qu'ailleurs, c'est complètement inconvenant.
Oui, je dirais que sur le fond, les émotions sont les mêmes dans, sur toutes les parties du globe. C'est-à-dire, on ressent de la joie, de la tristesse, de la colère. Bref, les émotions sont
universelles.
Universelles. Et en général, les causes qui les déclenchent sont aussi universelles. Mais ce qui est extrêmement juste, c'est que la culture va décrire leur modalité d'expression. La culture va montrer comment elles s'expriment dans un endroit donné ou pas. Par exemple, dans certaines cultures asiatiques, remercier ou montrer sa joie ne se fait pas pour être considéré comme un affront à la personne qui vous fait un cadeau, etc. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la nécessité de départager ce qui est une émotion, on va dire, normale, qui s'exprime, enfin, non pas normale, adaptée à une situation et qui s'exprime culturellement d'une certaine façon. Le docteur tout à l'heure nous a expliqué que certaines personnes dans certaines cultures dansent pour exprimer leur tristesse. Je pense que chez nous en France, si quelqu'un se mettait à danser à la suite au cimetière ou à la suite d'un deuil parce qu'il est très triste,
ce serait mal vu.
Ben, en tout cas, ça interrogerait.
Par contre, on voit par exemple dans la culture française les gens discuter, manger, boire. Raviver les souvenirs, c'est quelque chose qui est culturellement admis.
Qui est culturellement tout à fait admis. Et alors, cette expression a une fonction. Justement, elle vise à les réguler. Parce que quand on danse pour exprimer sa tristesse, on l'exprime et on l'apaise. Comme on a entendu tout à l'heure, la biologie du corps, etc., se met en marche. Quand on mange avec des gens et on discute et on ravive les souvenirs à propos d'un être cher qui est disparu, eh bien, on apaise aussi les émotions. On les socialise et on les apaise.
J'ai une petite question en un mot provocatrice pour conclure. Et la spontanéité dans tout ça? Si on régule trop nos émotions, est-ce qu'on ne va pas perdre notre naturel?
C'est une question de dose et en tout cas, il faut garder sa spontanéité.
Merci beaucoup, Dana Castro. Merci, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à Paris. L'activité physique, c'est bon pour la santé. Vous venez nous en parler toutes les semaines dans Priorité Santé. Docteur Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. C'est bien fait du sport, mais parfois, quand on fait trop de sport, eh bien, ça s'appelle, un drôle de mot dont je viens d'apprendre l'existence à l'instant, la bigorexie. C'est quoi exactement, docteur Sen, cette bigorexie?
La bigorexie, c'est une maladie. C'est reconnu par l'OMS depuis 2011. C'est une addiction, finalement, et qui décrit finalement la dépendance à la pratique sportive excessive. Et ça, c'est pas si rare que ça, ça existe. Et il y a des personnes, notamment chez les personnes qui veulent développer de manière excessive leur masse musculaire ou qui font quelquefois des sports d'endurance extrêmement intensifs. Les sportifs et ça touche les sportifs amateurs, parce qu'évidemment, les sportifs professionnels font beaucoup de sport, mais ça, c'est dans le cadre de leur profession. On va dire que le facteur de risque, c'est dès qu'on dépasse à peu près 10 heures par semaine, il faut vraiment se poser la question de ce risque de bigorexie. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne ne peut plus se passer véritablement de ce sport. Sa vie entière est organisée autour du sport, au point de provoquer des problèmes familiaux et professionnels. Le sport devient une obsession, ça prend toute la place dans la vie quotidienne, et on voit ça, comme je viens de le dire, dans le culturisme, surtout, et dans l'endurance. Alors, pourquoi cela? On pense que le mécanisme, c'est que lorsqu'on fait du sport, on sécrète des endorphines, ça donne des sensations de plaisir intense, le circuit de la récompense est engagé, et en fait, la personne recherche sans cesse à retrouver cette sensation de bien-être, au point d'entraîner une véritable compulsion.
Alors, docteur Sen, qui dit addiction dit risque. Précisément, quand on est accro au sport, c'est quoi les risques?
Les risques, c'est les risques liés à la pratique excessive du sport. Donc, des lésions musculaires, des déchirures musculaires, des atteintes tendineuses, des fractures osseuses, l'infarctus. Donc, ça, ce sont bien sûr des risques qui sont liés à cette pratique excessive. Un risque aussi d'épuisement général, lié à une trop grande activité sportive. Et puis, un risque de dépendance, même à des produits annexes qu'on peut consommer pendant le sport, comme des protéines, par exemple, donc des compléments, l'excès de compléments alimentaires, l'excès de médicaments. Et puis, éventuellement, des produits même dopants, anabolisants, pour tenter d'augmenter toujours, encore et encore, cette masse musculaire. Et puis, souvent, les gens vont être dans un véritable déni, pouvant même, quelquefois, paradoxalement, augmenter leur activité pour essayer de contredire, finalement, ce que démontre leur entourage.
Alors, une addiction, on l'a dit, un petit peu comme ce qui se passe pour les personnes dépendantes à l'alcool.
Eh oui, il y a une relation. Il y a une relation entre l'activité physique excessive, la bigorexie, et l'excès de consommation d'alcool, l'addiction au sport et la consommation problématique d'alcool sont reliés. Des études ont montré que les personnes qui ont cette addiction, cette bigorexie, sont presque 3 fois plus nombreuses à montrer des signes de consommation problématique d'alcool que dans la population générale. Alors, c'est pas une consommation qui est classique, qui est pas pendant la pratique sportive, parce qu'évidemment ça trouble la pratique, mais souvent c'est la fameuse troisième mi-temps où beaucoup d'alcool sera pris. Et puis, on se rend compte que cela est indifférent, d'ailleurs, dans les deux sexes, ça touche autant les femmes que les hommes, et autant en campagne que dans les grandes villes. Et en fait, on se rend compte que souvent, ceux qui vont être atteints de bigorexie vont être des jeunes sportifs qui sont peu actifs professionnellement. À l'inverse, on se rend compte que si on pratique de manière régulière et modérée le sport, au contraire, c'est un facteur de protection par rapport à la consommation excessive d'alcool. Donc du sport un peu, mais pas trop. Et j'ai envie de dire un dicton à nos éditeurs qui pourront retenir que 3 entraînements, ça va. Au-delà, bonjour les dégâts.
Et voilà, merci beaucoup docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On l'a compris, c'est une question d'équilibre. À très bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, à C'est tout, Samaké, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Laurence No. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'accouchement, les contractions, la gestion de la douleur, les différentes étapes de cet événement hors du commun, sécurité et bienveillance lors de l'accouchement. Bien sûr, on attend vos témoignages. Comment s'est passé votre accouchement? Est-ce que vous avez des questions sur ce jour, ce moment très particulier? Appelez-nous au 33 84 22 75 75. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.